Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, avec ma co-animatrice Dominique Chanfraud, nous vous présentons un concert de Vincent Segal, organisé par le Samedi Musicaux et qui aura lieu le samedi 30 mai prochain à 20h à la Collégiale Saint-André de Chartres. Et c'est une émission Par ici les sorties.
Bonjour Yvonne. Oui, une émission un peu spéciale aujourd'hui car nous avons eu la chance d'enregistrer une première rencontre au CRD avec sa directrice qui s'appelle Cécile de Hane.
Voilà.
Et après une parenthèse musicale, Vincent Segal nous rejoindra par téléphone pour poursuivre ce voyage sonore.
Voilà, exactement. On commence donc par Cécile de Hane, qui a fait une partie de ses études musicales en même temps que Vincent Segal. Et ils sont devenus amis pendant ce temps-là. Cette première partie de l'émission est donc un témoignage afin de mieux connaître l'artiste du samedi 30 mai, le grand violoncelliste Vincent Segal. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir dans ton bureau au CRD. Je suis ravie que tu aies accepté de livrer ce témoignage et je te laisse le micro pour que tu nous racontes.
Bonjour Yvonne, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie moi d'avoir la chance d'accueillir Vincent Segal qui, alors il y aurait beaucoup à dire, hein, on n'en a évidemment pas le temps. On a commencé effectivement nos études, pas tout à fait ensemble parce qu'on a, deux ou trois ans d'écart, donc Vincent pour moi c'était vraiment la référence. Oui. C'était le grand qui jouait formidablement bien et qu'on avait tous envie d'imiter. On a eu la chance de commencer le violoncelle avec un très grand artiste, non seulement, mais un très grand pédagogue et humaniste qui s'appelait Pierre Pennassou, qui nous a tous appris non seulement le violoncelle, mais bien au-delà, à nous intéresser à tous les arts. Tous les cours qu'on avait, en fait, étaient tous des masterclass, en fait.
Ah oui.
Les cours de Monsieur Pennassou étaient tous des cours où on était tous les élèves en même temps, on s'écoutait les uns les autres, on dialoguait, on parlait. Ce professeur racontait tous ses déplacements, tous ses tours du monde. Il faisait une très grande carrière de quartettiste. Et c'était vraiment quelque chose qui, je pense, et c'est, j'imagine pas Vincent qui dira le contraire, nous a tous construit en fait au-delà du violoncelle et même au-delà de la musique.
Oui,
c'était vraiment un humanisme, un intérêt pour tous les arts, un intérêt, quelque chose d'extrêmement inclusif, d'extrêmement dans le dialogue, dans l'attention à l'autre, l'amour de la peinture, du cinéma. On parlait de tout cela dans les cours. C'était vraiment quelque chose de tout à fait particulier et qui nous a vraiment construit de la sorte. Et donc, par la suite, on a aussi eu la chance d'avoir un même professeur au Conservatoire supérieur à Lyon, qui était Jean Deplace. Voilà, par la suite, Vincent est parti pour le Canada pour suivre ses études supérieures et a entamé la carrière merveilleuse que l'on sait. Donc, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Pour moi, ça reste toujours une référence parce que Vincent, c'est quelqu'un qui non seulement a un immense talent musical, mais là aussi, et ça rejoint ce que je disais au début, qui va au-delà, c'est-à-dire qui s'intéresse à tout, qui a une immense curiosité artistique et intellectuelle.
Qui s'en vient par les enregistrements qu'il a fait.
Exactement, hein. Qui est ouvert sur le monde, sur les musiques du monde, sur les arts, sur les gens. Et il y a comme ça une vraie curiosité, une boulimie, une intelligence. Et ça s'entend dans son jeu, dans ses choix, qui sont très, très variés, très, très riche, et je pense qu'on en aura bien évidemment plus qu'un aperçu lors de la masterclass qui se déroulera, la masterclass publique.
On va en parler,
Finalement, de ce rapport à la musique qui est très ouvert, qui est très libre, ce qui n'empêche pas évidemment une rigueur extrême, mais c'est une ouverture absolue.
C'est une ouverture absolue, et quand on entend Vincent Segal jouer du violoncelle, il en retire des sonorités qu'on n'a pas l'habitude, soit parce qu'il fait avec les doigts, soit il en fait
en
un instrument de
pierre,
en pizz ou même en guitare.
Tout à fait, enflammé en mode flamenco.
Je ne sais pas comment on dit, mais.
Ouais.
Et même il en fait un instrument de percussion, donc c'est pour les jeunes, c'est magique qu'ils sont au conservatoire.
J'espère qu'il va évidemment montrer son talent d'improvisation, etc. Juste une toute petite anecdote anecdote si j'ai le temps. Il y a quelques années, beaucoup de violoncellistes avaient fait on avait participé à une grande soirée en l'hommage de notre ancien professeur au Conservatoire supérieur à Lyon. Et Vincent était venu, comme d'autres personnes, comme Anne Gastinel et Emmanuel Bertrand, etc., qui ont tous eu ce professeur aussi. Bref, tout le monde avait joué des choses toutes plus belles les unes que les autres. Et Vincent était arrivé sans archet.
Ah oui,
et il avait
fait
une improvisation de au moins 20 minutes, enfin quelque chose d'incroyable, qui avait finalement littéralement levé la salle.
Ah oui.
Et moi qui, enfin je suis quand même violoncelliste, hein, et je n'avais même pas imaginé qu'au violoncelle on pouvait en arriver là, d'inventer toutes ces sonorités, ces manières de faire des pizzicatis, cette variété, cette inventivité, cette créativité, évidemment d'une très grande sensibilité,
oui,
d'une très grande variété. Et ça a été, tout le monde était complètement émerveillé. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant et très impressionnant. Ben voilà, donc c'est cela que nous allons découvrir le 30.
Oui, 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 oui. On le voit d'ailleurs sur l'affiche aussi du visuel des samedis musicaux. Il est avec un violoncelle sans archet. On dirait même que il a l'attitude presque comme un contrebassiste, quoi. C'est un petit contrebasse, mais.
Ben, c'est-à-dire que le violoncelle aussi, outre évidemment la beauté de l'instrument, c'est voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, d'un rapport vraiment très très physique à enserrer, à embrasser le violoncelle. Il y a quelque chose de très puissant, effectivement, et d'intime dans le fait de jouer du violoncelle.
Oui, c'est super. Bon, moi, tu nous as donné très envie d'écouter Vincent Segal, qui doit nous réserver plein de surprises, bien sûr, et j'espère qu'il lèvera un petit bout de voile de son interview qui va suivre. Et pour le masterclass, j'ai envie de dire que vous soyez violoncelliste ou non, nous vous invitons à être curieux et à venir assister à cette masterclass qui paraît passionnante pour en apprendre plus sur l'instrument et la façon de le jouer en fonction du répertoire abordé. Je pense qu'on peut le dire comme ça, peut-être. Cela aura lieu le samedi 30 mai, de 9h à 13h, dans l'auditorium du conservatoire.
Pas du tout.
Non, c'est
à la collégiale. Tout est à la collégiale.
C'est à la collégiale,
ouais,
déjà.
La masterclass du matin est donc de 9h à 13h également à la collégiale Saint-André.
D'accord.
Tout comme le récital du soir qui est à 20h à la collégiale également.
D'accord.
Mais en fait, à cette masterclass, il y aura des étudiants violoncellistes, bien sûr,
oui,
qui vont jouer des choses variées comme Shostakovich ou Dieu sait quoi. Il y aura aussi une altiste qui va jouer du tango de Piazzolla. J'ai programmé aussi un duo jazz d'une trompette et guitare électrique.
Ah oui.
J'ai évidemment fait en sorte qu'il n'y ait pas que du violoncelle.
D'accord.
Parce que encore une fois, voilà, Vincent,
oui,
il joue tout.
Il
connaît toutes les musiques et il joue et il a joué avec des plus grands artistes avec des instruments les plus variés. Donc j'ai tenu à ce que ce soit le plus varié possible également.
D'accord,
pour la masterclass.
Bon, ben, c'est superbe, donc tout est à...
Il faut venir.
Oui, il faut venir. Tout est à la collégiale Saint-André, donc le matin de 9h à 13h, c'est entrée libre pour le masterclass. Ça a l'air d'être superbe et qui sera un petit concert en quelque sorte. Hein,
parce c'est un travail sur l'improvisation, liberté, le rapport à la partition, j'imagine. Enfin, ça va être extrêmement intéressant.
Ouais. Et le soir à 20h, donc pas à 20h30, mais à 20h, il y aura le concert de Vincent Segal. Et là, pour la billetterie, vous allez sur Samedi Musicaux, www.samedimusicaux.fr. Grand merci à Cécile Dahane de nous avoir peint ce tableau bien vivant et intrigant de Vincent Segal, que nous avons hâte de découvrir lors de l'interview qui va suivre. Mais d'abord, un intermède musical où Vincent Segal improvise en trio sur Changing Everything avec Sébastien Surel au violon et Thomas Kubitsch à la guitare. Au début de l'extrait, vous entendrez Vincent Segal au violoncelle avec l'archet, mais il y a toute une partie ensuite où aussi bien le violon et le violoncelle sont joués avec les doigts, en pizzicato, mais comme la guitare en quelque sorte.
Bonjour Vincent Segal, quelle joie de Bonjour. Vous retrouver au téléphone après l'écoute d'un extrait de Changing Everything où vous improvisez à partir du thème en trio avec Sébastien Surel au violon et Thomas Kubitsch à la guitare.
Bonjour.
Bonjour.
Alors quand on écoute vos enregistrements, on entend presque toujours en dialogue avec d'autres musiciens dans l'improvisation, le jazz, la musique du monde. Et là, le 30 mai, vous serez seul sur scène. Face au public très classique des samedis musicaux. Ça change tout, non? Qu'avez-vous envie de leur faire vivre ce soir-là?
En fait, j'ai trouvé un procédé quand je suis seul, parce que quand j'étais plus jeune, quand je jouais seul, ce qui m'arrivait assez rarement, je dois dire, puisque j'aime bien jouer avec d'autres partenaires, j'avais un problème de constituer un programme parce que je trouvais ça un peu raide tout seul. Et donc j'ai trouvé cette idée de chapeau avec des papiers, ça fait intervenir le public et en même temps ça permet de montrer justement toute la mémoire, une mémoire quasiment, c'est comme un livre de toutes les personnes avec qui j'ai joué, avec qui j'ai travaillé, des pays que j'ai traversé, des zones qui m'ont beaucoup influencé, comme par exemple le Brésil, la Turquie, l'Afrique de l'Ouest, etc. Et donc ça me permet de pouvoir évoquer toutes ces musiques et en même temps de montrer comment un violoncelle arrive à les évoquer tout seul.
Sur le site des Samedis Musicaux, on peut effectivement lire que le programme sera tiré au sort. Est-ce que vous donnerez une liste d'œuvres que les Samedis Musicaux peuvent mettre dans un chapeau pour que le public tire le programme au sort, ou est-ce que le public met des choses dans le chapeau et vu que c'est un public classique, vous risquez de vous trouver avec, une demande d'improvisation.
Non.
Une bande de Bach, etc.
Oui, je peux jouer. Enfin, j'improvise pas toujours. Hein. Je joue des. L'improvisation, c'est spécial. En fait, quand on improvise, il y a plusieurs choses. Ça fait entrer la mémoire. Mais en fait, c'est moi qui fais les papiers.
Ah, d'accord.
Et je mets des papiers, mais par exemple, je mets pas des papiers avec seulement des œuvres. Je mets des papiers avec des noms de musiciens, ça peut être des musiciens disparus depuis très longtemps, comme justement Jean-Sébastien Bach. Ça peut être des musiciens avec qui j'ai énormément travaillé et qui sont pour moi des piliers, comme par exemple Glenn Ferris ou Nana Vasconcelos ou Balaké Sissoko. Ça peut être des pays, c'est-à-dire que je peux écrire Mali, je peux écrire Brésil, je peux écrire Argentine, je peux écrire... des régions comme ou des départements comme Martinique, La Réunion. Je parle aussi de style. Ça peut être par exemple Maloya, ça peut être Shaabi, ça peut être Samba, c'est-à-dire des génériques de danse ou de styles musicaux. Ça peut être aussi dire au public, posez-moi une question et je vais essayer d'improviser sur ce que vous me posez comme question. Ça peut être la personne qui tire, ça peut être vous-même chanter quelque chose. Ça me plaît beaucoup aussi.
D'accord.
Et quand vous partez d'un thème issu du répertoire classique, vers quel paysage musical votre imagination vous emmène-t-elle le plus naturellement ?
Ah, mais c'est-à-dire, si jamais je tire Tchaïkovski, là, de ce fait, je vais jouer moi-même des choses écrites par Tchaïkovski, mais ce qu'il en reste, c'est-à-dire, et c'est souvent précis parce que je continue toujours à entretenir ce répertoire. Donc, par exemple, ça peut être un mouvement des variations rococo, ça peut être une mélodie de Tchaïkovski, ça peut être Souvenir de Florence, mais une partie seule et pas les sextuors entiers. Et après, je vais pas improviser spécialement dessus. Je vais juste restituer ce qui me reste en mémoire. Je trouve ça assez beau, en fait. Puisque finalement, interpréter, c'est ça, en fait. Mm-hmm. C'est ce qui reste aujourd'hui, en 2026, d'œuvres qui ont été créées à 100 ans, 200 ans, 300 ans, des fois 500 ans. Si on parle de Guillaume de Machaut, ça va encore plus loin.
D'accord, ok. Et chez vous, quand j'ai écouté un petit peu, il n'y a pas que les notes, mais aussi la façon de jouer qui sort souvent des codes traditionnels. Avec les doigts, vous faites des beats de toutes sortes, jusqu'à considérer votre violoncelle comme une guitare, voire un instrument de percussion. Est-ce que les doigts vous donnent plus de possibilités que le jeu d'archet ?
Bravo Yvonne, c'est très bien. Je ne peux pas dire mieux. En fait, vous avez très bien analysé ma façon de jouer. Et je dirais qu'il y a un portrait de... Je crois que c'est Rameau qu'on voit avec son violon. Il n'a pas d'archet. Il est en train de faire des pids. Parce qu'il devait poser et ça devait fatiguer d'avoir un archet. Et donc, il a posé avec le violon quasiment en bandoulière. Et en fait, j'aime mon professeur de violoncelle, qui était le professeur de Cécile aussi, Déane, c'est Pierre Pénassou, et il aimait beaucoup les pizzicati. Et j'aimais bien utiliser ces techniques pour jouer déjà les accords, c'est-à-dire m'occuper de l'harmonie. Parce qu'on peut jouer, à l'archet, c'est très difficile de jouer les quatre notes simultanées. Il y a toujours ce qu'on appelle une latence. Mais en fait, en pizz, on peut jouer vraiment les quatre notes. Et en fait, j'aime beaucoup la guitare. J'aime beaucoup les instruments comme le clavier, l'accordéon, des choses comme ça. Donc j'essaye aussi de me servir de ce jeu pour pouvoir évoquer d'autres styles, d'autres façons de jouer rythmiquement. L'archet, pour moi, c'est plus comme un chant, plus comme la voix. Et les pizzicati, c'est plus comme les percussions ou des instruments clavier.
D'accord. Ok.
Et en concert, est-ce que vous aimez donner quelques clés au public pour comprendre ce que vous faites ou bien faut-il absolument venir à votre masterclass au CRD dans la journée pour percer
c'est à la collégiale.
À la collégiale.
Et aussi, le matin.
À la collégiale dans la journée pour percer
le matin.
Excuse-moi, pour percer le secret.
C'est un peu les deux, mais j'aime bien expliquer et parler de personnes souvent disparues que j'adorais. J'aime bien les faire ressurgir, alors en parole et en musique. Mais en parole, on peut expliquer aussi beaucoup de choses. Par exemple, ça me plaît aussi d'expliquer aux auditeurs, par exemple, si on parle de danse, que la valse ou la mazurka, à l'époque, était considérée comme des danses un peu dépravées, puisque les couples dansaient ensemble et que ce n'était pas courant à l'époque. Il y avait beaucoup de danses où les hommes dansaient d'un côté, les femmes de l'autre. Donc, quand on parle de mazurka, si ça a irradié dans le monde entier jusqu'aux Antilles ou jusqu'au Brésil, c'est parce que ces danses-là, il y avait une rumeur qui disait « Ah, mais ces danses-là sont très chaudes, on peut dire. » Et quand on entend, si je parle à mes enfants de mazurka, ils vont voir quelque chose de désuet, ils vont penser à Chopin comme quelque chose de non sensuel, alors que ça l'est extrêmement, voilà. Donc j'aime bien parler des œuvres que je joue, des choses que je joue, des styles, parler un tout petit peu et des fois pas, ça dépend des fois.
D'accord, ok. Et toute autre chose, je viens d'apprendre qu'un nouveau CD vient de sortir, Voyage musical à la Havane, c'est Cécile qui me l'a dit, avec Roberto Fonseca, grand pianiste jazz cubain. Qu'avez-vous envie d'en dire en quelques mots ?
Ah ben c'est un album qu'on a enregistré assez rapidement, alors qu'on se connaît depuis des années. Et c'était une proposition de Roberto qui m'a dit « J'aimerais bien jouer juste piano-violoncelle et enregistrer avec toi. » Et ça m'a fait plaisir parce que c'est un disque finalement assez classique, ce qui est assez rare. C'est-à-dire que là, pour le coup, je joue quasiment sur ces 40 minutes de musique, je joue 45, je ne sais plus, beaucoup à l'archet, beaucoup en utilisant un style quasiment romantique. Et en fait, ce que voulait montrer Roberto, c'est qu'il a reçu une éducation musicale classique à la Havane, au conservatoire, et que les gens souvent identifient son jeu comme lié au son cubain et à la danse, et à la percussion justement, alors que lui aime aussi, et je sais que je dois avouer, puisque là nous sommes énormément en tournée en ce moment, et j'aime beaucoup jouer avec lui, parce qu'il fait des très belles dynamiques comme un pianiste classique, l'éducation classique, c'est-à-dire qu'il va chercher des pianissimos et des fortés, alors que souvent quand je joue avec des pianistes de jazz, souvent ils ont moins d'ambitus de couleurs.
Oui, c'est tout forté.
Mais votre musique peut parfois bousculer les habitudes d'un public très attaché au répertoire classique. Mais justement, est-ce que ce n'est pas là que la magie opère ? Est-ce que vous sentez que ce public se laisse volontiers embarquer dans votre univers ?
Oui, j'espère. En tout cas, quand je fais ça, je fais ça vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse. Et quand je joue au violoncelle tout seul comme ça, j'essaie d'imaginer les gens comme des gens qui pourraient être de ma famille, comme mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique. Donc, je joue comme je suis. Après, les gens peuvent apprécier certaines choses ou pas d'autres. Mais en tout cas, ils sentent qu'il y a que ça vient quand même de quelque chose qui leur est cher. C'est-à-dire que ma base, elle est classique. Après, elle est détournée. Enfin, moi, effectivement, quand je faisais mes recherches, quand j'étais déjà très petit, hein, peut-être Cécile en a parlé, mais quand j'avais 15 ans, 14 ans, j'essayais déjà de faire d'autres choses. J'avais pas l'impression de casser un beau vase de famille, quoi. Enfin, c'était plus pour moi une façon de vivre au quotidien qui excitait mon imagination. Et puis, j'étais très curieux, j'aimais beaucoup mes disques. J'avais beaucoup de disques à la maison. Dès que j'avais de l'argent de poche, j'achetais des vinyles. Et, je pouvais pas, quand j'aimais une musique, j'étais obligé de m'imprégner et de m'occuper de ce style. Donc, j'essayais de comprendre comment c'était fait, comment ça jouait. Et je m'intéresse beaucoup à des musiques comme la musique indienne, qui pour moi est une grande musique. Donc, oui, effectivement, ça peut. Mais les gens sont pas si désarçonnés que ça. C'est juste que ça permet d'entendre le violoncelle différemment, je pense.
Et quand vous parlez de musique indienne, je suppose que ce n'est pas ça que vous achetez comme CD quand vous étiez étudiant encore.
Ah si, 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 beaucoup. Mais il n'y avait pas de CD à l'époque.
Mais non, enfin non.
Les chants de la terre sur France Musique.
Ah oui, oui.
Musique. Et dès qu'il y avait quelque chose qui passait avec de la musique indienne, mon père m'achetait des vinyles. Alors au début, c'était des gens très connus comme... Évidemment, les premiers que j'ai écoutés, c'était surtout Ali Akbar Khan, Ravi Shankar, Chatur Lal, oui. Des choses comme ça. Mais après, j'ai eu la chance d'aller beaucoup en Inde jouer. Et je suis évidemment amoureux de... Enfin, je ne fais pas de différence entre des grands musiciens indiens et Béla Bartok ou Stravinsky.
D'accord, ok. Oui, vous voyagez beaucoup, hein, je crois. Vous êtes plus souvent à l'étranger qu'en France.
J'ai cette chance de pouvoir effectivement avec la musique que j'ai 16 ans, j'ai énormément voyagé, joué avec des musiciens différents, rencontré des cultures, joué dans des théâtres. C'est-à-dire, évidemment, quand on joue en Argentine ou aux États-Unis, c'est pas la même chose, ou en Allemagne, c'est pas la même chose qu'en France. Donc ça, j'aime rencontrer les gens, entendre des musiciens, c'est pas toujours les mêmes attitudes, c'est pas les mêmes regards. Quand on entend, par exemple, si en plus, je profite des festivals pour aller écouter aussi les musiciens qui jouent autour de moi à l'étranger. Et c'est toujours très enrichissant, oui.
Nous finirons cette émission avec Changing Everything pour violoncelle, violon et guitare. Un grand merci à Vincent Segal, Cécile Dahan, Dominique Chanfraud et à notre technicien Simon Martin. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous donnons rendez-vous pour le samedi 30 mai afin d'écouter Vincent Segal. De 9h à midi pour la masterclass, déjà à la Collégiale Saint-André, avec une entrée gratuite. Et ensuite à 20h, donc vous avez l'après-midi de libre, pour le concert à la Collégiale Saint-André de Chartres.
Et les tarifs du concert restent fidèles aux samedis musicaux, 15 et 20 euros. Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Toutes les informations et la billetterie sont à retrouver sur le site des Samedis Musicaux.